7. Refusant de laisser ces brumeuses inquiétudes se rendre maîtresse de moi, je suivis les instructions de Noyes et ouvris la porte blanche à 6 panneaux sur ma gauche en faisant jouer ses loquets de cuivre. L'endroit était plongé dans la pénombre comme prévu. En y entrant, je remarquai que l'odeur bizarre s'y faisait davantage sentir. Puis je crus percevoir dans l'air une espèce de faible vibration que je devais plus ou moins fantasmer. Pendant quelques instants, les volets clos ne me permirent pas de voir grand-chose, mais un murmure haché au ton contrit attira mon attention sur un grand fauteuil bas situé dans le coin le plus éloigné et le plus obscur de la pièce. Dans ses profondeurs chargées d'ombre, je distinguais les taches pâles et floues des mains et du visage d'un homme. J'eus au fait de m'approcher de cette silhouette qui avait tenté de parler. Malgré la faible luminosité, je reconnus sans erreur possible mon hôte. J'avais à plusieurs reprises examiné sa photographie. Je distinguais les traits affirmés et burinés de son visage, ainsi que sa barbe courte et grisonnante. Mais en le regardant avec plus d'attention, ma joie d'identifier Aclay fut atténuée par une angoisse mêlée de tristesse. Sans conteste, j'avais devant moi un homme fort malade. Je m'étonnais que l'asthme seul puisse entraîner cette expression fatiguée, rigide, immobile, et ce regard vitreux qui ne sciait pas. Puis je compris que la tension des expériences terribles qu'il avait endurées devait l'avoir gravement affecté. N'y avait-il pas là de quoi briser n'importe qui, même un homme plus jeune que cet intrépide explorateur de l'interdit? Je craignis que la résolution étrange et soudaine de ses problèmes ne soit arrivée trop tard pour lui éviter un effondrement général. Ses mains inertes posées sur ses genoux, molles, comme mortes, avaient quelque chose de pathétique. Il portait une ample robe de chambre, et une écharpe jaune vif, ou une capuche, lui enveloppait la tête s'enroulant tout autour de son cou. Ce fut alors que je remarquai qu'il s'efforçait de parler dans le même murmure haché qui avait accueilli mon arrivée. J'eus d'abord du mal à comprendre ce chuchotis, à cause de la moustache grise d'Aclay, qui dissimulait tous les mouvements de ses lèvres, et parce que quelque chose dans le timbre de cette voix me perturbait. Mais en me concentrant, j'en vins assez vite à le saisir étonnamment bien. Son accent n'avait rien de rustique, et son phrasé était plus raffiné encore que sa correspondance me l'avait laissé présager.
« Monsieur Wilmart, je présume. Vous devez m'excuser de ne pas me lever. Je suis vraiment souffrant, comme Monsieur Noyes doit vous l'avoir appris. Mais je n'ai pu résister au plaisir de vous voir quand même. Vous avez lu ma dernière lettre. J'aurai beaucoup à vous apprendre demain, quand je me sentirai mieux. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux de vous rencontrer en personne après notre longue correspondance. Je suppose que vous avez apporté les documents avec vous, ainsi que les photographies et l'enregistrement. Noyes a posé votre valise dans l'entrée. Vous avez dû la voir. Pour cette nuit, je crains que vous ne soyez obligé, dans une large mesure, de vous débrouiller seul. Votre chambre se trouve à l'étage, dans la pièce juste au-dessus de celle-ci. Une fois en haut de l'escalier, vous verrez la porte de la salle de bain, elle est ouverte. Un repas vous attend dans la salle à manger, juste derrière cette porte à droite. Vous pourrez le prendre quand vous voudrez. Je me montrerai un meilleur hôte dès demain, mais pour l'instant la faiblesse me rend infirme. Je vous en prie, faites comme chez vous. Vous pouvez prendre les lettres, les photographies et l'enregistrement et les poser sur la table ici avant de monter votre bagage. C'est dans cette même pièce que nous discuterons. Vous apercevez mon phonographe sur la petite table dans le coin. Non, merci. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour moi. Je souffre de ces crises depuis longtemps. Revenez simplement me voir tout à l'heure. Ensuite, vous vous coucherez quand vous voudrez. Moi, je resterai à me reposer ici. Je passerai peut-être la nuit dans ce fauteuil. Cela m'arrive souvent. Demain matin, je serai bien plus apte à vous parler des sujets qui nous préoccupent. Vous comprenez, j'en suis sûr, la nature absolument stupéfiante de nos découvertes. Les abîmes du temps et de l'espace s'ouvriront à nous et nous accéderons à un savoir dépassant tout ce qu'ont pu concevoir la science et la philosophie humaine. Seuls quelques élus sur Terre ont eu ce privilège. Savez-vous qu'Einstein se trompe et que certains êtres, certaines forces, peuvent se mouvoir plus vite que la lumière? Avec l'assistance nécessaire, je prévois de voyager dans le passé et dans l'avenir, afin de voir et d'expérimenter physiquement notre Terre à de lointaines époques passées et futures. Vous n'imaginez pas jusqu'où ces êtres ont porté leurs connaissances. Il n'y a rien qu'ils ne puissent accomplir avec l'esprit et le corps des organismes vivants. Je m'attends à visiter d'autres planètes, voir d'autres étoiles et galaxies. J'irai d'abord à Yugot, le monde le plus proche où demeurent ceux du dehors. Il s'agit d'un orbe étrange et sombre, aux confins de notre système solaire, encore inconnu des astronomes ici. Je vous en ai déjà parlé dans ma lettre. Quand le moment sera venu, voyez-vous, des êtres de là-bas dirigeront des flux de pensées vers la Terre et provoqueront sa découverte. Ou bien peut-être laisseront-ils l'un de leurs alliés humains aiguiller les scientifiques. On trouve de puissantes cités sur Yugot, dans lesquelles s'élèvent d'immenses gradins, bâtis de tours avec des terrasses superposées, taillé dans une pierre noire semblable au spécimen que j'ai essayé de vous envoyer. Il venait de Yugot. Là-bas, le soleil ne brille pas plus qu'une autre étoile, mais ceux du dehors n'ont pas besoin de lumière. Ils disposent d'autres sens plus subtils, si bien que leurs imposants temples et maisons ne comportent pas de fenêtres. La clarté leur est même nuisible. Elle les gêne et leur brouille les idées, pour la simple raison qu'elle n'existe pas dans le cosmos obscur, hors de l'espace et du temps, d'où ils sont originaires. Visiter Yugot a de quoi rendre fou un cerveau peu solide. Pourtant je vais m'y rendre. Les noirs fleuves de poids qui coulent sous de mystérieux et énormes ponts, des ouvrages bâtis par une race plus ancienne, éteinte et oubliée, avant que les êtres que nous connaissons arrivent à Yugot, après avoir traversé le vide absolu, peut faire de tout homme un dante ou un pot, s'il parvient à rester sain d'esprit assez longtemps pour relater ce qu'il a vu. Pourtant, gardez bien en tête que ce monde sombre de jardins, de fongioïdes et de villes sans fenêtres n'en fait rien d'effrayant, sauf pour nous, les humains. Sans doute notre planète a-t-elle paru aussi terrible au tout premier de ces êtres qui l'ont explorée dans les âges primitifs. Vous voyez, ils étaient là longtemps avant que s'éteigne la fabuleuse époque du grand Cthulhu. Ils se rappellent la cité engloutie de Rayleigh, quand elle prospérait au-dessus des eaux. Ils ont également visité l'intérieur de la Terre. Il existe des accès dont l'humanité n'a pas idée. Certains passages se situent dans ces mêmes collines du Vermont, et les immenses univers de vie inconnus tout en bas. Gnian, illuminé de bleu, Yot, de rouge, Enkai, la noire, où aucune lueur ne parvient. C'est d'Enkai qu'est issu cet effroyable Tsatogua, vous savez, le dieu créature amorphe, évoquant un crapaud que mentionnent les manuscrits pnacotiques, le Necronomicon et le cycle des mythes de Comorium préservé par le grand prêtre atlante, Karl Kashtan. Mais nous parlerons de tout cela plus tard. Il doit être déjà 4 ou 5 heures. Il vaut mieux que vous déposiez ici le matériel que vous avez apporté et alliez manger un morceau avant de revenir pour une bonne discussion. Je me détournai avec lenteur et m'exécutai.
J'allai chercher ma valise, en sortis le matériel concerné et le déposai sur le bureau, et montai enfin dans la chambre que l'on m'avait attribuée. S'ajoutant au souvenir tout frais de ces empreintes de griffes sur la route, les phrases chuchotées d'Aclay m'avaient étrangement affecté. Et sa familiarité avec ce monde mystérieux abritant une vie fongique, la lointaine Yugotte, me donnait la chair de poule plus que je voulais bien l'admettre. Je déplorais sincèrement le triste état de mon hôte, mais je devais aussi reconnaître que ces murmures rauques n'étaient pas seulement pitoyables. Il y avait quelque chose de haïssable. Si seulement il n'avait pas tant exulté lorsqu'il avait évoqué Yugotte et ses noirs secrets. Je trouvais ma chambre très agréable et bien meublée. Je ne sentis aucune odeur désagréable de moisissure et ne perçus pas cette vibration perturbante. Après y avoir laissé ma valise, je redescendis voir Aclay et prendre le repas préparé pour moi. La salle à manger se situait juste derrière le bureau et je remarquai qu'une annexe dans le prolongement abritait la cuisine. Sur la table m'attendait une grande variété de sandwichs, un gâteau et du fromage. Une bouteille thermos à côté d'une tasse posée sur une soucoupe m'indiquait qu'on avait pensé au café. Après m'être régalé, je m'en servis une ample rasade, mais remarquai alors que la qualité jusqu'alors excellente des mets avait subi une altération dans ce seul domaine. La première cuillerée que j'avalai révéla un arrière-goût âcre, déplaisant, et je n'en bus pas davantage. Tout au long de cette collation, je pensais à Aclay assis silencieux dans son grand fauteuil au fond de la pièce voisine plongée dans le noir. Je retournai une fois près de lui pour le presser de partager mon repas, mais il murmura qu'il ne pouvait rien manger pour le moment. Plus tard, juste avant de dormir, il avalerait un peu de lait avec du malt. Ce serait tout ce qu'il pourrait consommer de la journée. Après le repas, je tins à débarrasser et à faire la vaisselle dans l'évier de la cuisine, où je vidais d'ailleurs le café que je n'avais pas aimé. Puis je revins dans le bureau, toujours assombri, et déplaçai une chaise pour m'installer à côté de mon hôte, et m'apprêtai à discuter avec lui des sujets qui lui conviendraient. Les lettres, les photographies et l'enregistrement sonore se trouvaient toujours sur la grande table au milieu de la pièce. Mais pour cette session, nous n'eûmes pas à y recourir. Il ne me fallut pas longtemps pour tout oublier de mon environnement, jusqu'à cette odeur bizarre et cette impression curieuse de palpitation dans l'atmosphère. J'ai déjà dit que je me refusais à citer, ou même à évoquer par écrit, certaines des informations présentes dans les lettres d'Aclay, notamment la deuxième, la plus volumineuse. Cette même réticence s'applique avec encore plus de force à ce que j'entendis chuchoter ce soir-là dans cette pièce noire, au milieu des collines solitaires. Je ne peux même pas donner une idée de l'étendue des horreurs cosmiques révélées par ce murmure rauque. L'homme avait traversé d'affreuses épreuves auparavant, mais ce qu'il avait appris depuis son pacte avec ceux du dehors mettait au défi l'auditeur de conserver la raison. Même à présent, je refuse avec la dernière énergie de croire aux implications de son discours concernant la structure de l'infini, la juxtaposition des dimensions, la position effrayante d'un autre cosmos connu, tissé d'espace et de temps, dans une chaîne sans fin d'atomes univers liés entre eux qui constituerait, à l'échelle supérieure, le supercosmos de courbes et d'angles aux organisations électroniques matérielles et semi-matérielles. Jamais homme en possession de tous ses esprits n'avait approché aussi dangereusement près des secrets de l'entité fondamentale. Jamais cerveau organique ne s'était trouvé aussi près de l'annihilation complète au milieu du chaos qui transcende forme, force et symétrie. J'appris d'où était venu Cthulhu à l'origine et pourquoi la moitié des immenses étoiles provisoires de notre histoire avaient explosé. Je devinais, grâce à des allusions que même mon intrépide informateur ne me délivra qu'après un silence intimidé, le secret dissimulé derrière les nuages de Magellan et les amas globulaires, ainsi que la noire vérité voilée par l'immémoriale allégorie du Tao. La nature des Doels me fut pleinement révélée, ainsi que l'essence, mais non l'origine, des chiens de Tyndalos. La légende de Yig, père des serpents, perdit à mes yeux son caractère symbolique, et j'eus un sursaut de dégoût quand,
j'entendis évoquer le monstrueux chaos nucléaire au-delà de l'espace des angles, celui que le Necronomicon a heureusement dissimulé sous le nom d'Azathoth. Ce fut un choc de voir les plus ignobles cauchemars des mythes occultes éclaircis en des termes concrets dont la hideuse morbidité criarde surpassait tout ce qu'avaient pu suggérer les plus téméraires insinuations des mystiques antiques et médiévaux. Inévitablement, j'en vins à croire que les premiers à avoir murmuré ces contes abominables devaient eux aussi s'être entretenus avec ceux du dehors, comme à clé, et peut-être même avoir visité les royaumes cosmiques qu'il se proposait de voir. Il me parla de la pierre noire et de ce qu'elle signifiait, et je me réjouis de ne pas l'avoir reçue. Je n'avais que trop deviné le sens de ces hiéroglyphes. Pourtant, mon hôte paraissait à présent accepter l'ensemble du système haïssable qu'il avait découvert par hasard. Il l'acceptait, il avait hâte d'explorer plus avant ces monstrueux abysses. Je me demandais à qui il avait parlé depuis sa dernière lettre et si tous ses interlocuteurs avaient été des êtres humains, comme le premier émissaire qu'il avait mentionné. Mon cerveau était en ébullition. Je commençais à bâtir toutes sortes d'hypothèses délirantes concernant l'odeur bizarre, pénétrante et la vibration sournoise que je percevais dans la pièce. Le soir tombait à présent. Tandis que je me rappelais ce qu'Aclay m'avait écrit au sujet de ses précédentes nuits, je frémis à l'idée qu'il n'y aurait pas de lune. Je n'aimais guère non plus la manière dont le corps de ferme était niché au pied de la colossale pente boisée menant au sommet inexploré du mont Noir. Après avoir demandé la permission à mon hôte, j'allumai une petite lampe à huile, la réglai au plus bas et la plaçai sur une bibliothèque, à l'autre bout de la pièce, du côté du bus spectral de Milton. Mais je regrettai très vite mon initiative, parce que la faible clarté donnait au visage tendu et immobile d'Aclay, ainsi qu'à ses mains inertes, un aspect anormal, diablement proche de ceux d'un cadavre. L'homme paraissait presque incapable de bouger, à part un raide hochement de tête de temps en temps. Après ce qu'il m'avait raconté, j'avais du mal à imaginer quelle révélation plus bouleversante encore il pouvait conserver pour le lendemain. Mais à la fin, il m'informa que son voyage à venir jusqu'à Yugot et au-delà, et mon éventuelle participation à ce périple, constituerait le sujet principal de nos futures discussions. Le sursaut d'horreur qui m'échappa en l'entendant me proposer une telle expérience sembla l'amuser, parce que sa face oscilla avec violence quand je trahis ainsi mon effroi. Puis il évoqua avec plus de ménagement la possibilité pour des êtres humains d'accomplir cette traversée apparemment impossible du vide interstellaire. Il l'avait déjà fait à plusieurs reprises. Certes, les corps complets des hommes ne pouvaient supporter un tel transfert, mais les talents extraordinaires de ceux du dehors en matière de chirurgie, de biologie, de chimie et de mécanique leur avaient permis de trouver comment faire voyager des cerveaux sans leur support corporel. On pouvait sans dommage extraire l'organe et, durant son absence, conserver en vie le résidu charnel qui l'avait abrité. On plongeait alors la dense matière cérébrale ainsi isolée dans un fluide renouvelable, à l'intérieur d'un cylindre étanche à l'éther fabriqué dans un métal extrait de Yugot, grâce à des électrodes placées sur le cerveau et connectées selon les besoins à des instruments complexes, on savait recréer les facultés vitales de la vue, de l'ouïe et de la parole. Les êtres fongiques ailés transportaient sans difficulté dans l'espace les cerveaux cylindres intacts. Ensuite, sur toutes les planètes où s'était développée leur civilisation, on trouvait quantité de dispositifs sensoriels auxquels reliaient les esprits ainsi conditionnés, de sorte qu'avec quelques manipulations simples, les intelligences itinérantes pouvaient jouir d'une vie stimulante, riche en discussions, même si c'était faute de corps purement mécanique, à chaque étape de leur voyage à travers le continuum espace-temps et au-delà. C'était aussi simple que de déplacer un enregistrement pour phonographe, et de le faire jouer partout où existait une machine compatible. Le succès de la manœuvre ne faisait aucun doute. Aclay n'avait pas de crainte. Cela n'avait-il pas été brillamment accompli à de multiples reprises? Pour la première fois, il leva une de ses mains inertes flétries
et désigna d'un mouvement saccadé une haute étagère à l'autre bout de la pièce. Je vis bien alignés les uns à côté des autres plus d'une dizaine de cylindres d'un métal qui m'était inconnu. Ils avaient une hauteur d'environ 30 centimètres et un diamètre inférieur. Trois curieuses prises de courant formaient un triangle isocèle sur la façade convexe de chacun. L'un des cylindres était relié par deux de ces prises à deux machines à l'aspect étrange placées le long du mur. Je n'avais pas besoin qu'on m'apprenne le rôle de ces instruments, et j'eus un frisson comme de violente fièvre. Je remarquai alors qu'Aclay me désignait en fait un endroit nettement plus proche, où l'on avait rassemblé divers objets semblables pour plusieurs d'entre eux aux deux machines situées derrière les cylindres, et connectés entre eux par des câbles et des prises. Ils formaient tout un appareillage compliqué.
« Vous voyez ici quatre sortes d'instruments, Wilmart. » Entendis-je chuchoter. « Quatre sortes qui recouvrent chacune trois facultés, soit au total 12 éléments. Vous comprenez ? Quatre espèces vivantes différentes sont représentées dans les cylindres là-haut. Il y a 3 humains, 6 êtres fongiques incapables de traverser l'espace corporellement, 2 habitants de Neptune, Seigneur, si vous voyez l'apparence qu'ils ont sur leur planète. Les autres viennent de cavernes au cœur d'une étoile sombre particulièrement intéressante, loin de notre galaxie. À l'intérieur de l'avant-poste principal de ceux du dehors, dans le mont rond, on trouve ça et là d'autres cylindres et machines. Les cylindres contiennent des cerveaux originaires d'au-delà du cosmos, ceux d'alliés et d'explorateurs des confins du dehors, pourvus de sens très différents de tout ce que nous connaissons. Les machines sont spécialement conçues pour leur fournir les divers moyens d'expression et sensations qui leur sont propres, et permettent aussi à plusieurs types d'interlocuteurs de les comprendre. Le monde rond, comme la plupart des bases importantes de ces êtres dans les différents univers, se révèle un lieu fort cosmopolite. Bien sûr, on ne m'a prêté pour mes expériences que les sortes les plus communes d'appareils. Tenez, prenez les 3 machines que je vous montre et posez-les sur la table. La grande avec les 2 lentilles de verre sur le devant, puis la boîte avec les tubes et le panneau acoustique, enfin celle avec le disque de métal au sommet. Maintenant, allez chercher le cylindre dont l'étiquette indique B67. Vous pouvez monter sur cette chaise Windsor pour atteindre l'étagère. C'est lourd, peu importe. Assurez-vous de prendre le numéro B67. Ne faites pas ascension au cylindre tout neuf et brillant relié aux 2 machines de test, celui sur lequel est écrit mon nom. Posez B67 sur la table à côté des 3 appareils et vérifiez que sur chacun d'eux le bouton est tourné à fond sur la gauche. À présent, connectez le câble de la machine aux lentilles à la prise supérieure du cylindre. Voilà. Reliez celle au tube à la prise en bas à gauche et celle avec le disque à la 3e. Maintenant, tournez tous les boutons à fond vers la droite. D'abord sur l'instrument aux lentilles, puis sur celui muni du disque. Enfin, sur celui avec les tubes. Parfait. Je peux aussi bien vous le dire tout de suite. Vous avez devant vous un être humain tout comme vous ou moi. Demain, je vous ferai entendre quelques-unes des autres espèces.
Aujourd'hui encore, j'ignore pourquoi j'obéis sans aucune objection à ces ordres murmurés, ni même si, à ce moment, je croyais ou non à Clay complètement fou. Après ce qui s'était passé, j'aurais dû me tenir prêt à tout. Mais cette mascarade mécanique me paraissait si typique des divagations d'inventeur ou du scientifique délirant que je sentis vibrer en moi une note de scepticisme, que même les notions évoquées jusque-là n'avaient pas réussi à faire naître. Et ce qu'impliquait ce chuchotement allait bien au-delà de toutes les croyances humaines. et pourtant les choses qu'il m'avait dites auparavant n'étaient-elles pas encore plus incroyables, et ne me paraissaient-elles pas moins grotesques seulement parce que leur éloignement empêchait une vérification par des preuves tangibles? Tandis que mon esprit se débattait en plein chaos, je pris peu à peu conscience de sons de raclement et de tournoiement mêlés provenant des trois appareils reliés au cylindre. Et ces bruits cessèrent bientôt pour laisser place à un silence presque absolu. Qu'allait-il se produire? Une voix allait-elle retentir? En pareil cas, quelle preuve aurais-je qu'elle ne provenait pas d'un appareil radio ingénieux dans lequel parlerait un complice dissimulé à proximité pour nous observer? Même à présent, je ne peux jurer de ce que j'entendis, ni à quel phénomène au juste je fus confronté, mais il est certain que quelque chose eut lieu. Pour le dire brièvement, concrètement, la machine munie de tubes et d'un panneau acoustique se mit à parler, d'une manière si pertinente et si intelligente que je n'eus aucun doute quant à la présence effective de la personne qui s'exprimait et devait nous observer. La voix était forte, métallique, sans vie, et de toute évidence mécanique jusqu'au plus petit élément permettant de la produire, totalement dépourvue d'inflexion ou d'expression. Elle cliquetait et vibrait avec une précision et une détermination mortelles.
« Monsieur Villemart, dit-elle, j'espère que je ne vous effraie pas. Je suis un être humain tout comme vous, même si mon corps se trouve pour l'heure à environ 2 500 km de cette pièce, sous le mont Rond, où il repose en toute sécurité et bénéficie d'un traitement vitalisant idoine. Ma psyché est bien ici avec vous, mon cerveau nage dans ce cylindre, et grâce à ces vibrateurs électroniques, je peux voir, entendre et parler. Dans une semaine, je traverserai le vide comme je l'ai déjà fait à de multiples reprises. Je compte avoir à ce moment le plaisir de la compagnie de Monsieur Hackley. J'aimerais que vous puissiez vous aussi vous joindre à nous, car je vous connais désormais de vue et de réputation. J'ai suivi avec attention la correspondance que vous avez entretenue avec notre ami. Je fais bien sûr partie des hommes alliés aux êtres du dehors, venus visiter notre planète. Je les ai rencontrés la première fois dans l'Himalaya et les ai aidés de diverses manières. En échange, ils m'ont permis de vivre des expériences telles que peu en ont jamais eu la chance. Pouvez-vous imaginer que j'ai exploré 37 corps célestes différents, des planètes, des étoiles sombres et d'autres objets d'une nature moins définie, dont 8 en dehors de notre galaxie et 2 au-delà du cosmos incurvé où existent l'espace et le temps. Rien de tout cela ne m'a fait le moindre mal. On a séparé mon cerveau de mon corps grâce à décision si habile qu'appeler cette opération chirurgie serait lui faire injure. Ces êtres disposent de méthodes rendant une telle extraction aisée et presque routinière. En outre, le corps ne vieillit plus une fois qu'on en a retiré le cerveau. J'ajoute que celui-ci est pratiquement immortel grâce aux facultés mécaniques dont il dispose et à une nutrition équilibrée fournie par le renouvellement occasionnel du fluide qui le préserve. En conséquence, j'espère du fond du cœur que vous déciderez de nous accompagner, Monsieur Hackley et moi. Les visiteurs aiment beaucoup faire la connaissance d'érudits tels que vous et leur montrer les immenses abysses dont la plupart d'entre nous doivent se contenter de rêver dans leur ignorance inventive. Il peut paraître étrange au début de rencontrer ces êtres, mais je vous sais au-dessus de ce genre de réaction. Je crois que Monsieur Noyes doit venir lui aussi. C'est lui qui, j'en suis certain, vous a amené ici dans sa voiture. Depuis des années, il fait partie de notre groupe. Sans doute avez-vous reconnu sa voix. On l'entend sur l'enregistrement sonore que Monsieur Hackley vous avait adressé.
Comme je sursautais violemment, la voix se tut un instant avant de poursuivre.
Donc, Monsieur Villemart, je vous laisse réfléchir à cette proposition en me contentant d'ajouter qu'un homme féru comme vous d'étrangeté et de recherches antiques ne devrait certes pas rater une pareille occasion. Vous n'avez rien à craindre. Toutes ces opérations sont sans douleur et l'état sensoriel que procurent les machines se révèle des plus plaisants. Quand les électrodes sont déconnectées, on glisse simplement dans un sommeil peuplé de rêves très nets aux contours fantastiques. Maintenant, si vous permettez, nous pourrions remettre à demain la suite de cette discussion. Bonne nuit. Vous n'aurez qu'à tourner complètement à gauche les boutons des appareils, peu importe dans quel ordre. Enfin, peut-être la machine aux lentilles en dernier.
Bonne nuit, monsieur Hackley. Prenez bien soin de notre invité. Vous êtes prêt pour les boutons ?
Ce fut tout. J'obéis machinalement et éteignis les trois interrupteurs alors que j'étais abasourdi et avais le plus grand mal à croire à ce qui venait de se produire. La tête me tournait toujours quand Hackley me chuchota que je n'avais qu'à laisser le dispositif tel quel sur la table. Il ne commenta d'aucune manière les derniers instants écoulés, et, de fait, aucune parole n'aurait pu faire grand effet sur mes facultés engourdies. Je l'entendis me dire que je pouvais emporter la lampe avec moi dans ma chambre et en déduisis qu'il préférait rester seul dans le noir. Il était certes temps pour lui de se reposer, car il n'avait cessé de parler durant tout l'après-midi et la soirée. Cela aurait épuisé même un homme robuste. Encore ébahi, je souhaitai une bonne nuit à mon hôte et montai avec la lampe, malgré l'excellente torche électrique dans ma poche. J'étais content de quitter ce bureau chargé de son étrange odeur de moisi et où j'avais la curieuse impression de percevoir une vibration dans l'air, mais bien sûr, je ne pus m'empêcher de ressentir un hideux sentiment d'effroi, de danger et d'anormalité cosmique en me rappelant l'endroit où je me trouvais, les forces en présence desquelles je me tenais. La région sauvage, isolée, la pente sombre recouverte de bois mystérieux qui surplombait la maison de manière si écrasante, l'empreinte sur la route, celui qui chuchotait de façon maladive dans le noir sans bouger, ces machines et ces cylindres infernaux, et par-dessus tout ces invitations à subir une étrange chirurgie et des voyages plus étranges encore. Cette succession si rapide d'éléments inouïs m'écrasait, sapait ma volonté et allait presque jusqu'à m'affaiblir physiquement. Découvrir que mon chauffeur, Noyes, était le célébrant humain de ce monstrueux et archaïque rituel de sabbat enregistré par Hackley avait constitué un choc tout particulier, même si j'avais d'emblée éprouvé l'impression vague et répugnante de reconnaître sa voix. Un autre bouleversement provenait de mes propres sentiments vis-à-vis de mon hôte, lorsque je pris le temps de les analyser. Autant j'avais éprouvé une sympathie instinctive pour Hackley, tel qu'il se révélait dans sa correspondance. Autant je me rendais compte à cet instant que sa présence m'emplissait d'une indiscutable répugnance. J'aurais dû le plaindre à cause de sa maladie, au lieu de quoi elle me faisait frémir. Il était si rigide, si inerte, si semblable à un cadavre. Et cet incessant murmure infatigable, haïssable, inhumain. Je songeais alors que son chuchotement différait de tout ce que j'avais pu entendre. En dépit de l'étonnante immobilité des lèvres cachées par la moustache, l'homme avait parlé avec une énergie sous-jacente et une puissance remarquable pour un asthmatique essoufflé. Je l'avais entendu depuis l'autre bout de la pièce, et, à une ou deux reprises, il m'avait semblé que ce son frêle et cependant pénétrant résultait moins d'une faiblesse que d'un sévère contrôle. Pour quelle raison, je n'en avais aucune idée. J'avais tout de suite perçu quelque chose de perturbant dans le timbre de cette voix. À présent, quand je m'efforçais d'y réfléchir, il me semblait que ce malaise ressemblait à la même impression inconsciente de familiarité qui m'avait rendu si déplaisante la voix de Noyes. Quant à me rappeler où et quand j'avais entendu une voix semblable à celle d'Hackley, c'était hors de mes capacités. Une chose me paraissait certaine, je ne passerais pas une autre nuit dans cette maison. Mon zèle scientifique s'était évaporé dans la crainte et le dégoût, et je n'avais plus qu'une envie, quitter cet antre morbide de révélations contre nature. J'en avais suffisamment appris. Il devait en effet exister d'étranges relations cosmiques, mais il ne valait sûrement rien aux êtres humains normaux de s'en préoccuper. J'avais l'impression que des influences blasphématoires me cernaient, étouffaient de force mes sens. Il était hors de question que je dorme. Aussi me contentais-je d'éteindre la lampe et me jetais-je tout habillé sur le lit. C'était sans doute une réaction absurde, mais je me tins prêt à affronter une situation d'urgence avec, dans ma main droite crispée, le revolver que j'avais apporté, dans ma main gauche, ma lampe de poche. Aucun son ne s'élevait de la pièce en dessous, et je m'imaginais mon hôte assis là dans le noir, raide comme un cadavre. Le tic-tac d'une horloge quelque part au rez-de-chaussée me parvint, et j'éprouvai un vague sentiment de reconnaissance à entendre ce son si familier,
Cela dit, le bruit me rappela qu'un autre aspect de mon environnement me perturbait. L'absence totale de bruit. Il n'y avait à l'évidence pas d'animaux dans les parages, mais je me rendais compte à présent que je n'entendais pas non plus les sons nocturnes habituels produits par la vie sauvage. En dehors du ruissellement sinistre que faisaient entendre de lointaines eaux invisibles, il régnait à l'extérieur un calme anormal, comme dans le vide interplanétaire, et je me demandais quel fléau intangible né des étoiles pouvait bien accabler la région. Je me rappelais les vieilles légendes selon lesquelles les chiens, comme toutes les bêtes, avaient toujours haï ceux du dehors et repensaient à ce que pouvaient signifier les empreintes que j'avais vues sur la route. 8. Ne me demandez pas combien de temps dura le profond sommeil dans lequel je plongeais sans le vouloir, ni quelle partie de ce qui suivit est à mettre sur le compte du pur onirisme. Si je vous dis qu'à un moment je me réveillais, puis vis et entendis telle ou telle chose, vous me rétorquerez simplement que je n'étais alors pas vraiment conscient et que j'ai rêvé tout ce qui s'est passé jusqu'au moment où je me ruais hors de la maison, titubais jusqu'à l'abri où j'avais vu la vieille Ford et m'emparais de cette antiquité pour me lancer dans une course éperdue à travers les collines hantées. Cette course, en fin de compte, après des heures passées à cahoter et à tourner en rond dans un labyrinthe de bois menaçant, me mena jusqu'au village qui se révéla être Tanchend. Bien sûr, vous ne tiendrez aucun compte des autres événements de mon récit. Vous affirmerez que les photographies, l'enregistrement, les paroles de la machine reliées au cylindre et toutes les autres preuves ne sont que les éléments d'une mystification exercée à mes dépens par Henry Hackley avant sa disparition. Vous insinuerez même qu'il avait comploté avec d'autres excentriques de son acabit pour réaliser cette stupide complexe imposture, en faisant en sorte que son envoi express soit volé à Keane et en incitant Noyes à jouer la comédie devant le rouleau de cire. N'est-il pas curieux, cependant, que personne n'ait jusqu'alors été capable d'identifier ce Noyes, et que personne ne le connaisse dans aucun des villages aux alentours de la ferme d'Aclay, alors qu'il a dû beaucoup fréquenter la région? Je regrette fort de n'avoir pas pris la peine de retenir le numéro d'immatriculation de sa voiture. Ou peut-être vaut-il mieux, après tout, que je ne l'ai pas fait. Car malgré tout ce qu'on peut me dire, malgré tout ce dont j'essaie parfois de me convaincre, je sais quelles influences ignobles venues d'ailleurs se tapissent au sein de ces collines à moitié inexplorées. Je sais qu'elles disposent d'espions et d'émissaires parmi les hommes. Je ne demande rien d'autre à l'avenir que de rester le plus éloigné possible de telles puissances et de leurs agents. Quand, à la suite de mon témoignage affolé, le shérif envoya une patrouille à la ferme, Hackley avait disparu sans laisser de traces. Son ample robe de chambre, son écharpe jaune et les bandes qui avaient enveloppé ses pieds gisaient sur le sol du bureau, près du grand fauteuil dans le coin. Et personne ne fut en mesure de dire si une partie de sa garde-robe s'était envolée en même temps que lui. Les chiens et le bétail n'étaient effectivement plus là, et on releva quelques impacts bizarres de balles sur la façade de la maison et sur un ou deux murs intérieurs. En dehors de quoi, rien ne parut sortir de l'ordinaire. La curieuse odeur de moisie ne flottait plus dans le bureau, et il n'y avait plus de vibrations dans l'air. On ne trouva ni cylindre, ni machine, ni aucune des preuves qu'avait contenue ma valise, ni empreinte sur la route, ni aucun des éléments insolites que j'avais aperçus au tout dernier moment. Après ma fuite, je suis demeuré une semaine à Bartleboro, où j'ai interrogé toutes sortes de gens qui avaient connu Hackley. Les résultats de cette enquête me convainquent que je n'ai pas rêvé ni ne me suis fait des idées. Les achats démesurés que l'homme avait effectués, chiens, munitions et produits chimiques, peuvent être prouvés, de même que le sabotage fréquent de sa ligne téléphonique. En outre, tous ceux qui l'ont connu, y compris son fils en Californie, concèdent que les allusions qui lui échappaient parfois concernant ses recherches étranges montraient une certaine cohérence. Les notables de la région le tiennent pour fou et affirment sans aucune hésitation que tous les éléments troublants portés à leur connaissance révèlent tout simplement des canulars conçus par un esprit malade, ayant peut-être bénéficié de la complicité d'autres personnages marginaux. Mais les plus rustiques des campagnards soutiennent dans le moindre détail les allégations d'Hackley. Il avait montré à certains d'entre eux les photographies, la pierre noire, et leur avait fait écouter l'abominable enregistrement.
Ils disent tous que les empreintes et la voix bourdonnante ressemblaient aux descriptions des légendes ancestrales. Ils ajoutent que les phénomènes bizarres ont augmenté autour de la maison d'Aclay après sa découverte de la pierre noire, et que désormais, tout le monde évitait cet endroit, à l'exception du facteur et des personnes à l'esprit terre-à-terre. Le Mont Noir et le Mont Rond, de notoriété publique, ont toujours été considérés comme hantés. Je n'ai pu trouver personne qui avait vraiment exploré l'un ou l'autre. L'histoire de la région atteste bien de la disparition de quelques habitants, parmi lesquels le semi-vagabond Walter Brown, l'homme dont Aclay parlait dans ses lettres. J'ai même déniché un fermier qui pensait avoir vu de ses yeux l'un des cadavres étranges repérés lors de la crue de la rivière de l'Ouest, mais son témoignage était trop confus pour qu'on puisse en tirer grand-chose. J'ai quitté Brattleboro bien résolu à ne jamais revenir dans le Vermont, et je suis certain de ne pas changer d'avis. Ces collines sauvages abritent sans conteste l'avant-poste d'une effroyable espèce cosmique. J'en doute d'autant moins depuis la découverte d'une 9e planète au-delà de Neptune, exactement comme ses influences maléfiques l'avaient prévu. Les astronomes, sans se douter de la hideuse justesse de leur choix, l'ont baptisé Pluton. Je sais qu'il s'agit sans erreur possible de la maudite Hugotte, et je frémis quand j'essaie d'imaginer la véritable raison qui a poussé ces êtres monstrueux à vouloir qu'on la repère de cette manière et à ce moment précis. Je m'efforce en vain de me persuader que ces détestables créatures ne sont pas en train de mettre en place une nouvelle politique nuisible à la Terre et à ses habitants légitimes. Mais il manque à mon récit la fin de ma terrible nuit dans la ferme d'Aclay. Comme je l'ai indiqué plus haut, je sombrais finalement dans un sommeil agité, empli de bribes oniriques où se manifestaient de monstrueux paysages à peine aperçus. Ce qui m'éveilla au juste, je n'en sais rien, mais j'ai la certitude d'avoir bien, à ce moment, été arraché à mes rêves. Tout d'abord, j'eus confusément l'impression d'entendre un furtif craquement de lattes du parquet dans le couloir devant la porte de ma chambre. Puis je perçus comme une manipulation étouffée de mon loquet. Les bruits cessèrent presque immédiatement, de sorte que mon réveil complet débuta au moment où je distinguais des voix venant du bureau juste en dessous. Plusieurs interlocuteurs paraissaient discuter, et ils me semblaient en désaccord. Il me suffit de les écouter quelques secondes pour me retrouver en alerte, car la nature de ces voix rendait ridicule toute idée de sommeil. Les tons en étaient étonnamment variés, et quiconque ayant entendu ce maudit enregistrement n'aurait pu nourrir la moindre incertitude quant à l'origine d'au moins deux d'entre elles. L'idée m'en était haïssable, mais je sus que je me trouvais sous le même toit que des êtres innommables venus des abysses spatiaux, car les voix en question correspondaient sans aucune équivoque à ces bourdonnements blasphématoires dont ceux du dehors usent pour entrer en communication avec les humains. Leurs timbres individuels se révélaient différents dans le ton, l'accent et le rythme, mais elles appartenaient à des individus de la même infâme espèce. Une troisième voix provenait de toute évidence d'une machine à parler reliée à l'un des cerveaux enfermés dans les cylindres. Il n'y avait pas plus de doute à son propos que pour les bourdonnements. Le son percutant, métallique et sans vie que j'avais entendu dans la soirée avait à jamais marqué ma mémoire, avec ses raclements, ses grattements, son absence d'inflexion et d'expression, mais aussi sa précision et sa détermination impersonnelle. Sur le moment, je ne réfléchis pas à la question de l'identité de l'intelligence qui s'exprimait par cet intermédiaire déplaisant. Elle me semblait devoir être celle qui m'avait parlé auparavant, mais tout de suite après, je me fis la réflexion que n'importe quel cerveau, relié à la même machine parlante, émettrait les mêmes sons. Les seules nuances possibles dans un tel parler ne pouvaient ressortir qu'au vocabulaire, à la cadence, au temps d'arrêt et à la prononciation des mots. Pour compléter ce colloque surnaturel, j'entendais aussi deux voix véritablement humaines. L'une vulgaire, appartenant à un inconnu d'évidence peu éduqué. L'autre, avec son accent distingué de Boston, appartenait à celui qui m'avait amené ici, Noyes. Tout en m'efforçant de saisir les paroles que le parquet massif étouffait de manière si exaspérante, je pris également conscience qu'un important remue-ménage avait lieu dans la pièce en dessous, de sorte que j'eus le sentiment de la présence d'un grand nombre de personnes dans le bureau, et pas seulement celles dont j'entendais les voix. Il m'est très difficile de décrire avec précision la nature de cette agitation,
car je n'ai que très peu d'éléments de comparaison à proposer. On aurait dit que, de temps à autre, des objets se mouvaient d'eux-mêmes dans la pièce, tels des entités conscientes. Le bruit de ces déplacements évoquait le claquement désordonné de deux surfaces dures l'une contre l'autre, comme si de la corne et du caoutchouc durci entraient en contact sans réelle coordination. Pour donner une idée plus concrète, mais moins exacte de ce bruit, on avait un peu la sensation que des gens chaussés de sabots mal ajustés et fendus piétinaient gauchement le parquet de latte polie. Je n'osais imaginer la nature et l'apparence des créatures responsables de ces bruits. Il ne me fallut guère de temps pour comprendre que je ne parviendrais pas à distinguer un discours cohérent dans ce vacarme. Des mots isolés, comme le nom d'Aclay et le mien, émergeaient par moments, surtout quand c'était la machine qui les émettait, mais leur signification exacte m'échappait faute de contexte. Aujourd'hui encore, je me refuse à tirer des conclusions concernant ces paroles. L'effet dévastateur qu'elles eurent sur moi tenait davantage de la suggestion que de la révélation. Un conclave atroce, défiant l'entendement, avait lieu sous mes pieds. Cela, j'en étais certain. Mais en vue de quelle décision abominable, je n'en savais rien. Je m'étonnais de constater qu'en dépit des paroles rassurantes d'Aclay, quant aux bonnes intentions de ceux du dehors, une impression générale d'affreuse malveillance m'envahissait tout entier. En écoutant avec attention, je commençais à bien différencier les voix, même si je ne parvenais pas à saisir grand-chose de leurs propos. Il me semblait toutefois discerner quelque émotion bien reconnaissable chez certains des interlocuteurs. Par exemple, un des bourdonnements comportait sans conteste une nuance d'autorité, tandis que la voix mécanique, malgré sa force et sa régularité artificielle, me paraissait se trouver dans une position de subordination et de supplication. Les inflexions de Noyes reflétaient une volonté de conciliation. Je ne tentais pas d'interpréter les autres. Je n'entendais pas le murmure désormais familier d'Aclay. Mais je savais bien qu'un tel son n'avait aucune chance de traverser l'épais parquet de ma chambre. J'avais essayé de transcrire sur le papier quelques-uns des mots épars que je surpris, ainsi que les sons les accompagnant, en indiquant du mieux possible chacun des interlocuteurs. Ce sont quelques phrases de la machine parlante que je parvins à distinguer en premier. La machine.
Attirez sur moi. Retournez les lettres et l'enregistrement. Terminé. Repris. Voir. Entendre. Soyez maudit. Une force impersonnelle après tout. Cylindre tout neuf et brillant. Seigneur.
Première voix bourdonnante.
Tant que nous cessions, petit et humain, Aclay, cerveau, il dit.
Seconde voix bourdonnante.
Nyarlathotep, Vilmart, enregistrement et lettres, imposture de mauvais goût.
Noyes, un mot ou un nom imprononçable peut-être Ngaktun.
Inoffensif, paix, deux semaines. Comme dit, je vous l'ai déjà dit.
Première voix bourdonnante.
Aucune raison, plan prévu, conséquence. Noyes peut surveiller le mont rond. Cylindre neuf, voiture de Noyes.
Noyes.
Bien, à vous de voir, ici, reposez, endroit.
Plusieurs voix en même temps, discours confus, incompréhensible. Nombreux bruits de pas, y compris les claquements insolites. Son étrange évoquant un battement d'ailes. Le moteur d'une automobile qui démarre et s'éloigne. Silence. Voilà en substance ce que je perçus tandis que je restais allongé, rigide, tout habillé, serrant un revolver dans ma main droite et une lampe torche dans ma main gauche, sur ce lit à l'étage d'une ferme inconnue, hantée, au milieu de ces collines démoniaques. Comme je l'ai précisé plus haut, j'étais pleinement éveillé. Mais une espèce d'obscure paralysie me garda néanmoins inerte longtemps après que les derniers échos de la réunion se furent éteints. J'entendais le tic-tac régulier de l'antique horloge en bois du Connecticut, quelque part en dessous de moi, et discernais au bout d'un moment le ronflement régulier d'un homme endormi. Aclay avait dû s'assoupir après ces étranges conciliabules. et je n'avais pas de mal à croire qu'il en ait eu besoin. Que penser de tout cela? Comment agir? Je ne parvins guère à le décider. Après tout, qu'avais-je entendu que les informations en ma possession n'auraient pu me faire prévoir? Ignorais-je qu'on accueillait désormais volontiers les mystérieux êtres du dehors dans cette maison? Sans doute qu'ils s'étaient présentés à l'improviste. Pourtant quelque chose dans ces fragments de discours me glaçait démesurément, faisait naître en moi les plus horribles et grotesques suspicions, et m'amenait à souhaiter avec ferveur de pouvoir me réveiller et me rendre compte que j'avais rêvé tout cela. Je crois maintenant que mon inconscient avait dû saisir des éléments que ma conscience n'avait pas encore compris. Mais, et Aclay? N'était-il pas mon ami? N'aurait-il pas protesté si ces créatures avaient eu l'intention de me causer le moindre mal? Le paisible ronflement au rez-de-chaussée semblait tourner en ridicule toutes mes nouvelles craintes. Était-il possible qu'on ait trompé Aclay, qu'on l'ait utilisé comme appât afin de m'attirer dans ces collines avec les lettres, les photographies et l'enregistrement? Ces êtres avaient-ils l'intention de nous éliminer tous deux parce que nous en avions trop appris? Une fois de plus, je repensais à ce changement, brutal et peu naturel, de situation intervenue entre l'avant-dernière lettre de mon correspondant et la dernière. Mon instinct me criait que quelque chose n'allait pas. Pas du tout. Les apparences étaient trompeuses. Ce café âcre que je n'avais pas bu, ne trahissait-il pas la tentative qu'avait commise une entité secrète inconnue de me droguer? Je devais parler à Aclay sur le champ et le ramener à la raison. Et ces êtres l'avaient ébloui au point de l'aveugler avec leurs promesses de révélations cosmiques. Mais il lui fallait reprendre ses esprits. Nous devions partir d'ici avant qu'il soit trop tard. Et s'il lui manquait la volonté de s'échapper, j'y supplierais. Ou bien si je ne parvenais pas à le convaincre de partir, je pourrais au moins m'enfuir seul. Certainement il accepterait de me prêter sa Ford, que je laisserais dans un garage à Brattleboro pour qu'il puisse la récupérer plus tard. Je l'avais aperçu dans une des granges à mon arrivée. Aclay avait laissé la porte ouverte, à présent qu'il croyait tout danger écarté, et je pensais avoir de bonnes chances de la trouver prête à démarrer. Cette antipathie passagère ressentie à l'égard de mon hôte pendant et après notre conversation avait entièrement disparu. Il se retrouvait dans une position très semblable à la mienne, et nous devions nous entraider. Je me rendais bien compte qu'il était souffrant et je détestais devoir le réveiller dans les circonstances actuelles, mais j'en ressentais l'urgente nécessité. Eu égard à la situation, il était hors de question que je reste là jusqu'au matin. Enfin, je me sentis capable d'agir et m'étirai avec vigueur afin de récupérer le plein contrôle de mes muscles. Je me levai avec un luxe de précaution plus instinctif que délibéré, trouvai mon chapeau et m'en coiffai, m'emparai de ma valise et enfin commençai à descendre l'escalier en m'éclairant grâce à la lampe torche. Dans mon état de nerfs, j'avais préféré garder le revolver serré dans ma main droite, tandis que je tenais de l'autre à la fois mon bagage et mon éclairage. Pourquoi me montrais-je si prudent? Je n'en sais trop rien dans la mesure où je comptais réveiller le seul autre occupant de la maison. Tandis que sur la pointe des pieds, j'achevais de descendre jusqu'au rez-de-chaussée l'escalier aux marches grinçantes, j'entendais plus clairement le dormeur. Je constatais qu'il devait se trouver dans la pièce à ma gauche, le salon, où je n'étais pas encore entré. À ma droite, la porte béait sur l'obscurité du bureau où avaient retenti les voix. Je poussai la porte entrebâillée du salon et pointai ma lampe vers l'endroit d'où provenaient les ronflements. Le faisceau lumineux éclaira le visage de l'homme assoupi, et l'instant d'après, je le déviai en hâte et entrepris à pas de loup de retourner dans le vestibule. Ces précautions étaient cette fois dictées par ma raison aussi bien que par mon intuition, car sur le canapé, ce n'était pas du tout Aclay qui dormait, mais celui qui m'avait servi de chauffeur, Noyes. Quelle était en fait la situation? Je n'en avais aucune idée, mais le simple bon sens me disait que mieux valait attendre d'en savoir davantage avant de réveiller qui que ce fût. Je regagnai l'entrée et refermai sans bruit la porte du salon en faisant jouer la clenche, diminuant ainsi les risques d'alerter Noyes. Je pénétrai alors avec précaution dans le bureau plongé dans le noir complet. Je m'attendais à y trouver Aclay, endormi ou non, dans le grand fauteuil bas qui, de toute évidence, constituait son lieu de repos préféré. Tandis que je progressais, le faisceau de ma lampe torche éclaira la grande table au centre de la pièce où trônait un de ces cylindres infernaux, auquel on avait relié un instrument visuel et un autre auditif. À côté, une machine à parler était pour l'instant déconnectée. Je pensais que cet appareillage devait être destiné au cerveau humain que j'avais entendu durant l'effrayante conférence précédente. Et un instant, j'eus la tentation perverse d'y rattacher le dispositif parlant, pour entendre ce qu'il aurait à dire. Je compris que le cerveau dans sa boîte en ce moment même devait avoir conscience de ma présence, puisque les appareils dédiés à la vue et à l'ouïe n'avaient pu manquer de révéler la lueur de ma lampe torche et le faible craquement du plancher sous mes pieds. Mais finalement, je n'osais pas toucher cette chose. Je remarquai sans y prendre garde qu'il s'agissait d'un cylindre neuf et brillant où était inscrit le nom d'Aclay, celui que j'avais vu sur l'étagère au cours de la soirée et auquel mon hôte m'avait dit de ne pas prêter attention. En repensant à ces instants, je ne puis que déplorer ma pusillanimité et souhaiter avoir eu l'audace de brancher cette machine. Dieu seul sait quel mystère relative à mes atroces suspicions et à l'identité des personnes impliquées dans l'affaire cela aurait pu résoudre. D'un autre côté, peut-être vaut-il mieux pour son bien et le mien que j'aie laissé ce cerveau tranquille. Après avoir éclairé la table, je pointai le faisceau de ma lampe vers le coin où je pensais trouver Aclay, mais, à ma grande surprise, constatai que personne, endormi ou non, n'occupait le grand fauteuil. Les amples plis de la vieille robe de chambre désormais familière s'étalaient sur le siège et non loin par terre gisaient l'écharpe jaune, ainsi que les énormes bandages pour les pieds qui m'avaient paru si bizarres. Alors que j'hésitais, m'efforçant de comprendre où avait bien pu passer mon hôte et pour quelle raison il avait soudain abandonné sa panoplie de souffrants, je remarquai que l'odeur étrange et l'impression de vibration avaient disparu du lieu. Qu'est-ce qui les avait causés? Curieusement, je me rappelais qu'elles ne s'étaient manifestées qu'à proximité d'Aclay. Elles avaient été plus fortes près de son fauteuil et absentes partout ailleurs, sauf dans le bureau, ou juste derrière la porte qui donnait sur l'entrée. Je m'arrêtai, parcouru de ma lampe le bureau plongé dans l'obscurité, tout en me torturant l'esprit pour trouver une explication à la tournure que prenait cette histoire. Si seulement le ciel avait permis que je sorte tranquillement de cet endroit avant d'éclairer de nouveau le fauteuil vide. Il se trouva que non, je ne partis pas tranquillement, mais après un cri étouffé qui dut déranger la sentinelle endormie de l'autre côté du couloir, même si cela ne l'arracha pas tout à fait au sommeil. Ce cri et le ronflement persistant de Noyes sont les derniers sons que j'entendis jamais dans ce corps de fer englué dans l'horreur au pied de la crête recouverte de bois noir d'un mont hanté, centre névralgique d'une abomination intersidérale située au cœur d'une région rustique et fantomatique de vertes collines solitaires où les ruisseaux marmonnent des malédictions. Ce fut un pur miracle que dans mon affolement je n'ai pas laissé tomber ma lampe, ma valise et mon revolver, mais le fait demeure que je les gardais en main. Je parvins à quitter la pièce puis la maison sans faire davantage de bruit, à me glisser sans encombre avec mes possessions dans la vieille Ford sous l'abri, à engager cet antique véhicule sur la route dans la nuit noire et sans lune, vers un endroit plus sûr dont je n'avais aucune idée. Le trajet qui suivit me parut un délire issu de la plume d'un Poe ou d'un Rimbaud ou des gravures d'un Doré, mais finalement j'atteignis Townshend. Voilà tout. Je m'estime chanceux d'avoir pu conserver ma raison intacte. Parfois, je crains ce que l'avenir nous réserve, surtout depuis la découverte si étonnante de cette nouvelle planète, Pluton. Comme je l'ai dit, j'avais laissé le faisceau de ma lampe, après avoir parcouru l'ensemble de la pièce, revenir sur le fauteuil vacant. Je remarquai alors, pour la première fois sur le siège, certains objets que les amples plis de la robe de chambre avaient plus ou moins dissimulés à ma vue. Des objets-là, il y en avait trois. Les enquêteurs n'en ont pas vu la moindre trace quand ils sont arrivés par la suite. Je vous l'ai dit au début, rien en eux n'éveillait en soi l'horreur. Le problème venait des conclusions auxquelles menait leur présence. Aujourd'hui encore, j'ai des moments de doute où j'accepte plus ou moins le scepticisme de ceux qui mettent l'ensemble de ce que j'ai vécu sur le compte du rêve, de mes nerfs ou de mon imagination. Ces trois éléments, à leur manière, manifestaient un diabolique savoir-faire. D'ingénieuses pinces métalliques y étaient jointes, et permettant de les rattacher à des excroissances organiques que je n'ose imaginer une seconde. J'espère, avec ferveur, en dépit de ce que mes craintes les plus enfouies me murmurent, il s'agissait de la production en cire d'un artiste accompli. Seigneur, cet être qui chuchotait dans le noir avec son odeur morbide, ses vibrations, sorcier, émissaire, métaphore, intrus, et ce hideux bourdonnement réprimé. Et pendant tout ce temps, à l'intérieur du cylindre tout neuf et brillant sur l'étagère, le malheur. Les talents extraordinaires de ceux du dehors, en matière de chirurgie, de biologie, de chimie et de mécanique. Car ce que je vis dans le fauteuil, parfait jusqu'au plus subtil détail microscopique dans leur ressemblance ou leur identité, c'était le visage et les mains de Henry Wentworth Hackley.